Radio Primitive.
Légal depuis 1981.
Attends, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Allez, bonsoir.
Bonsoir.
Ça part un peu dans tous les sens. C'est compliqué ce soir.
Ouais.
Normalement, tu devais dire que vous êtes à l'écoute de Les Régors sur Canal Sud.
Non, mais c'est.
Ça a déjà été dit ?
Ça a déjà été dit, oui.
Très bien.
T'inquiète
bon.
Pas.
C'est un peu
bon, alors ce soir, on a deux thèmes. L'Ukraine, vous vous en doutez, on verra ça à la fin. Et ensuite, on va surtout parler de la Corse, puisque nous avons...
Alors peut-être qu'on va inverser les sujets, parce que je ne sais pas si on a notre interlocuteur. Jean-Pas, est-ce que tu es là ? Non, t'es pas là, j'en parle. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles de l'Ukraine, de ses armes, et je vais tenter de joindre à nouveau notre interlocuteur.
Ok. Bon, alors, ça vient de sortir, ça a été publié tout à l'heure sur un site, Disclose. Alors, Disclose, c'est quoi ? C'est une association de loi 1901 créée par deux journalistes d'investigation qui sont aidés par une dizaine d'autres, qui a un certain nombre de cas qui ont été soulevés par eux au niveau de leur enquête. Et là, ils ont fait une enquête, ils font des enquêtes généralement sur les ventes d'armes à travers le monde, mais surtout les ventes d'armes françaises, puis comme vous le savez, on est le quatrième vendeur d'armes dans le monde, la France, oui, cocorico. Et c'est un marché incroyable, hein, c'est vraiment des trucs qui valent le coup d'analyser, et eux viennent de découvrir que finalement, eh bien, les Ukrainiens aujourd'hui sont massacrés dans certains cas par des armes françaises, pas directement, ce sont des armes de Safran et de Thales qui aident à localiser les cibles, aussi bien au niveau des avions que des hélicoptères et que des tanks. Alors, c'est clair que la France a discrètement équipé l'armée de Poutine avec des technologies militaires du dernier cri, du matériel qui a contribué à moderniser les forces terrestres et aériennes de la Russie, et qui sont actuellement utilisés en Ukraine. Alors, selon l'enquête de ces journalistes, ces exportations concernent essentiellement des caméras thermiques destinées à équiper plus de 1000 tanks russes, ainsi que des systèmes de navigation et des détecteurs infrarouges pour les avions de chasse et les hélicoptères de combat de la force aérienne russe. Principaux bénéficiaires de ces marchés, évidemment, on les retrouve toujours, les sociétés Thales et Safran, dont l'État français est le premier actionnaire. Alors vous allez me dire, mais c'est pas possible ce que ces journalistes ont découvert, puisqu'il y a un embargo, normalement, depuis très longtemps, qui concerne la Russie. En fait, quand on regarde bien, l'embargo date de 2014, et un embargo sur les armes n'est pas rétroactif. C'est-à-dire que toutes les commandes qui ont été passées par les Russes en 2007, 2008, etc., jusqu'en 2014, eh bien, sont livrées aujourd'hui, encore jusqu'en 2020, en fait. On a donc livré tout ce que les Russes avaient commandé à Safran et à Thales. Alors, bon, c'est des contrats donc, qui étaient signés avant l'embargo, mais ça aurait pu être normalement, et c'est là que ça va faire du bruit, normalement, ça aurait dû ne pas se faire, puisque les États membres de l'Europe doivent refuser les exportations d'armement dès lors qu'elles peuvent provoquer ou prolonger un conflit armé. C'était clair que depuis 2014, ce qui se passait en Ukraine, c'était clair que ça allait servir en Ukraine, ces armes. Hein. Alors, voilà, je crois qu'il faut savoir quand même qu'en 2014, c'était le fameux Hollande qui était au pouvoir. Ensuite, ça a été son successeur Macron. Et en fait, les deux ont fait la même chose. Faut rappeler quand même, par rapport à ce Hollande, que lui, il a fallu qu'il y ait vraiment une sacrée propagande, etc., pour qu'il arrête en 2015 la livraison, je crois, c'était
des quoi, des avions ?
Non, c'était pas des avions, je pense. C'était des navires, les navires Mistral à la Russie. Alors, ces Mistral n'ont finalement pas été livrés aux Russes, mais là, les livraisons plus discrètes qui ont eu lieu, eh bien, se sont poursuivies jusqu'en 2020 au moins.
Alors, on y reviendra peut-être un petit peu à la fin d'émission si on n'a pas terminé, parce qu'on apprend aussi que de l'autre côté, la France donne des missiles Milan à l'Ukraine, donc comme ça ils sont gagnants sur les deux côtés. On va totalement parler d'autre chose, quoique c'est l'État français, avec Jean-Pa qui est avec nous normalement. Je croise les doigts. Jean-Pa, tu es là ?
Ouais, tout à Ouais. Merci. Ouais, merci beaucoup Jean-Pa d'être avec nous. On est très content de t'avoir pour la première fois à la radio, même si c'est un peu compliqué au niveau technique ce soir, c'est pas grave. On a voulu avoir ton point de vue sur la situation qui se passe aujourd'hui encore depuis une dizaine de jours après l'agression dont a été victime Ivan Colonna, et puis d'une manière générale, essayer un petit peu de réfléchir à la situation du nationalisme corse, et puis aujourd'hui, essayer de réfléchir aussi à ce qu'ont donné et ce que donnent les luttes de libération nationale qui ont eu lieu au cours de ces 20, 30, 40 dernières années. Alors tu vas éclairer notre point de vue de Pizzicanto, hein, comme on dit, mais bon, voilà. Donc depuis une semaine, il y a des milliers de personnes qui manifestent en solidarité avec Colonna. Et puis aussi, pour certainement vouloir dire autre chose, tu étais sur l'île la semaine dernière, c'était tous les jours, ça représente combien de personnes à peu près? Est-ce que tu sais, est-ce que tu es capable de mesurer un peu ce que ça veut dire?
C'est difficile parce que il y a un petit côté mon compte double, tu vois. Tu doutes bien que d'une manif à l'autre, c'est quand même souvent à peu près les mêmes personnes. Mais on va dire que dans la plus grosse manif qu'on a pu voir, on pense qu'il y a eu, on a dit 15 000 personnes. Mm-hmm. C'est difficile de donner un chiffre exact, mais dans tous les cas, c'est une grosse mobilisation.
Tu peux rappeler combien il y a d'habitants en Corse?
Ouais, il y a 340 000 habitants en Corse. Hein, donc ça fait quand même beaucoup.
Ouais.
Il y a eu des manifs plus importantes hein, dans l'histoire de la Corse. Je pense notamment à l'affaire Bastelli-Cafèche en 1980, où là, il y avait... ils parlent de 30 000, 35 000 personnes qui étaient descendues. Bon, c'était un moment assez tendu parce que, tu sais, il y avait eu l'état de siège sur la ville. Mm-hmm. Après que des nationaux se soient fait, enfin, aient pris en otage des types qui étaient des barbouzes du sac et qui étaient venus tuer l'un d'entre eux. Enfin, mm-hmm. Je suis un peu long à expliquer, mais du coup, la ville était en état de siège. Il y a eu 2 morts parmi les habitants. Il y a eu 2 policiers qui ont été abattus. Enfin, ça avait été un moment très tendu, quoi. Donc, 15 000, c'est important. Je voulais juste préciser un petit truc sur ta présentation. Bon, ici, c'est pas ressenti comme une agression, hein, c'est un assassinat. Enfin, je veux dire, il a été laissé pour mort après avoir été étouffé sac plastique pendant, il y a 8 minutes d'agression. Il a été battu à mort. Ensuite, il a été étouffé. Il est en état de mort cérébrale. Enfin, on dit état de mort cérébrale. On ne sait pas.
Ouais, il y a des problèmes sur. Ouais.
Info. Ouais, voilà.
Ouais, c'est ça. Il y a des problèmes.
Voilà, et tout ça dans un contexte où, c'est terrible un peu ce que je vais dire, mais il y a eu tout un ressenti aussi, peut-être collectif encore sur ce moment-là, presque, bon, on est très complotiste aussi, hein, mais une espèce de truc de, ils veulent pas le tuer parce que s'ils le tuent, ils nous le ramènent quelque part, quoi, tu vois. Uh-huh. Quelque part, ils le tiennent et ils tiennent son corps et quelque part, le fait qu'il revient pas, ça calme, mais ça, voilà, ça évite que ça parte complètement. S'ils annonçaient la mort d'Ivan, ça serait encore plus violent que ça l'est. Enfin voilà, je suis pas en train de dire que c'est volontaire, mais je dis comment c'est ressenti en tout cas.
Bah de toute façon, tu l'as dit. Bon déjà il y a des problèmes au niveau des infos. C'est sûr que l'administration pénitentiaire et l'État français va lâcher des trucs au compte-goutte quoi pour essayer de gérer au maximum l'émotion légitime que ça crée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à Arles, donc c'est une grosse centrale et que les deux sont des PS quoi, hein, donc détenus particulièrement signalés. Que Colonna, en gros, il a le droit de sortir, on va dire, entre une demi-heure et une heure par jour pour aller à la bibliothèque ou pour faire du sport, que l'ensemble des sites hein, du bâtiment sont sous vidéosurveillance, hein, bien sûr, vous imaginez, et que l'individu en question, il a des troubles psychiatriques qui sont reconnus, hein, bien sûr, il est aussi lui-même DPS et il est auxiliaire, c'est-à-dire qu'il est chargé de tâches par l'administration pénitentiaire. Et aujourd'hui, on estime qu'il y aurait une dizaine de minutes où il aurait été laissé libre de son agression, quoi. Cette agression, cet assassinat, cette tentative, comme tu dis, elle a été permise par 10 minutes où il était tout seul dans la salle de sport avec Colonna. C'est voilà, très.
Je pense que c'est important justement d'insister sur ce truc, pas tant sur le gars qui effectivement. Enfin, c'est quelqu'un, bon, il a tout un background, lui. J'allais dire, enfin, il était vraiment en pression en prison. Il a tenté de foutre le feu pas mal de fois à sa cellule, ce qui est pas d'ailleurs quelque chose de mauvais en soi, soit en passant. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui clairement, bon, était, enfin voilà, qui aurait jamais dû être mis en contact avec avec Yvan. Et puis surtout, tu disais, le DPS, c'est aussi, on te réveille trois fois par nuit pour vérifier où t'es pendant 18 ans de sa vie. Enfin, il a, enfin, et 22 hein, pour Petro et pour Alain, parce qu'il y en a deux autres quand même dans l'histoire. Hein. Enfin, ils sont aussi toujours. Enfin, là, ils viennent de retirer leur statut de DPS, mais bon. Et de passer 22 ans en prison, quand même.
Mmh. Ouais, donc tu te dis que de toute façon, forcément, il y a une culpabilité de la part de la paix, et forcément, il y a un gouffre dans lequel tu peux t'engager pour te poser tout un tas de questions, quoi, c'est sûr. Ce qui a été aussi relevé, hein, outre le fait que la mobilisation elle a été importante, c'est l'énorme part de jeunes qui étaient présents dans cette mobilisation, des lycéens, des étudiants. Il est d'ailleurs à noter que cette mobilisation, elle avait été précédée d'une grande assemblée, d'une réunion publique, d'une assemblée générale, on va dire ça comme ça, à l'université de Corte, qui étaient des choses, des pratiques qui avaient un peu disparu dans la scène politique corse. Comment tu expliques, toi, la part importante de ces jeunes, parfois même très jeunes, à l'intérieur des manifestations?
Alors déjà, pour revenir sur ce que tu dis, donc pour faire une rapide chronologie, donc il y a l'assassinat d'Ivan, il y a tout le monde pense qu'il est mort, il est vivant, il est mort, il est vivant, enfin il y a une espèce de truc, et tu sais, c'est une petite société, alors franchement, il y a vraiment un truc où les gens parlent, moi j'étais en entretien, le type il pouvait pas se concentrer, il était tout le temps à regarder le Twitter, qu'est-ce qui se passe, il est mort, il est pas mort, tu vois. Un vieux monsieur, tu vois, 85 balais, il y a un truc très communautaire, très village là-dedans. Et derrière, il y a ce rassemblement le premier soir, et les gens, ils sont abasourdis, tu vois. Il y a vraiment un truc, personne parlait, et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu flipper aussi en ce moment, hein, c'est qu'on, enfin, on va pouvoir en parler après, mais il n'y a pas de slogan qui ressort, il n'y a pas grand chose de nouveau, entre guillemets, qui apparaît dans cette période-là, quoi. Bon. Et bon, le soir, donc, tout le monde est un peu en pression et tout, etc. Et on arrive un peu à pousser à l'intérieur des rassemblements, on peut dire, essayer un peu de les bousculer un peu. Il y a beaucoup de jeunes, effectivement. C'est important de dire aussi que, effectivement, il y a un truc générationnel. Il y a eu des manifs, bon, qui, notamment sur MeToo, l'année dernière, où il y a beaucoup de gamines qui se sont mobilisées par rapport à la question, enfin, évidemment, question de viol, d'abus sexuel, bon, enfin, les questions plus généralement qui sont liées à, je veux dire, à la situation des femmes dans la société, quoi. Et ça a quand même beaucoup bougé, voilà, l'année dernière, des gens très très jeunes. Et là, on voit apparaître effectivement des gamins et des gamines, ce qui fait que c'est aussi difficile pour nous de dire où on en est aussi, parce que c'est pas jeune, c'est jeune jeune, tu vois. C'est pas anormal de voir des gamins de 12 ans, de 13 ans, qui ont fait partie de la manif. Ceci étant dit, dans la manif d'hier, il y a aussi des équipes, voilà, de jeunes,
de moins jeunes,
de moins jeunes, de moins jeunes. Voilà. Voilà.
On a reconnu Piero Sozzini d'ailleurs pour.
Oui, voilà, il y a des gens effectivement qui sont toujours là, quoi. Oui. Avec l'histoire des cocktails et tout, enfin 650 cocktails, 400 qui ont été trouvés en plus. Bon, c'est pas, il y a une artillerie derrière, quoi, c'est sûr. Quoi. Mais il y a beaucoup de jeunes, ça c'est clair. C'est notable.
Alors que la plupart d'entre eux, c'est par un simple calcul arithmétique, étaient même pas nés quand à la fois le préfet a été abattu et quand Colonna a été mis en prison.
Et c'est important ce truc d'Ivan, quoi, parce que bon, il faut mettre un petit retour pour faire comprendre un peu aux gens ce dont on est en train de parler par rapport au commando Erignac. Bon, une fois de plus, la société corse, c'est une société qui est toute petite, donc il y a toujours des ambiguïtés au niveau politique, parce que ta cohabitation dans la même famille ou dans le même groupe, ou même entre frères, sœurs, enfin bon, etc., de gens qui peuvent avoir des variations politiques très, tu vois, enfin, ça peut très vite partir en embryos, quoi. Donc du coup, pour rappeler, le groupe du commando Erignac, on en a très peu parlé, en fait, dans les médias, mais c'est un groupe qui est issu de la Congolte, donc de la partie, on va dire, de la mouvance officiellement indépendantiste quand il y a eu la scission dans les années 90. Mmh. Mais en fait, à l'intérieur de la Concolta, eux ont été très critiques. Et notamment, ils ont refusé de participer pour une bonne partie d'entre eux au rassemblement de Tralonc, qui est une grande conférence de presse qui a eu lieu en 96, qui était clairement négociée avec la préfecture.
Qui avait été dealée avec Debré.
Exactement, avec le ministère de l'Intérieur. Et la décision de l'assassinat du préfet, c'est quelque chose qui rentre dans un contexte où c'est une tentative politique ou militaire, je dirais, de recentrer la répression sur tout le monde et de recentrer la répression sur l'État, enfin, de part et d'autre, quoi. C'est une, comment dire, c'était une espèce de coup extrêmement violent à ce moment-là contre l'État, parce que l'État était jugé aussi par eux comme étant un des grands manipulateurs des assassinats qu'il y a eu entre militants nationalistes.
C'est ça.
Je suis en train de parler de trucs.
Non, mais c'est super vieux, mais c'est complètement inconnu et c'est en dehors. On va dire, il y a, parce que tu sais ici, enfin tu le sais mieux que moi, hein, on regarde la Corse avec des yeux d'insulaire et puis des yeux de jacobin et de républicain. Donc on a toujours tendance à caricaturer. On regarde tous les aspects qui nous arrangent. Tous les nationalistes corses ont des cagoules et sont des imbéciles. On ne comprend pas que derrière ça, il y a aussi un mouvement politique et un mouvement social. Et alors, tu l'as dit, effectivement, il y avait une guerre fratricide où l'État français, justement, jouait tel parti contre tel autre parti, favorisait tel parti, flattait l'ego de un tel ou d'une telle, mettait en prison, ressortait, etc. etc. Et ce groupe, en assassinant le préfet Erignac, a voulu à la fois sortir de ça par un espèce d'acte, on va dire, extrême, en à la fois reportant la violence sur l'État français par l'intermédiaire de son représentant et d'autre part, tu l'as dit, vis-à-vis de la répression, obliger les gens à resserrer les rangs. C'est comme une sorte de claque dans la gueule, en fait, pour dire on arrête, on se pose et on regarde. Et de toute façon, si on le fait pas, on va être obligé, puisque en face, on a assassiné le représentant de l'État. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas faire plus politique hein, là-dessus. Hein. Voilà.
Et justement.
Et d'ailleurs, il s'appelait le groupe des anonymes, hein, je le dis comme ça.
Oui, voilà. Parce que le truc est... Bon, mais je vais juste donner un petit exemple hein, pour que les gens comprennent qu'on n'est pas en train de rentrer dans... On n'est pas sur Télé Illuminati ou je sais pas quoi. le cas de l'affaire des paillotes qui a beaucoup fait rire sur le continent, et même en Corse, hein, on oublie toujours que quand même le GPS, donc le groupe qui intervient... C'est un groupe qui donc vient brûler la paillote et la maison, hein, donc Féro. Et qu'il laisse un papier avec marqué Féro balance de flics. Donc ça s'est passé à l'as, quoi. Je veux dire, c'est quand même dingue de se dire. Et on a aussi après eu les témoignages, notamment le colonel Mazer qui s'est retourné après contre Bonnet, qui raconte donc que le préfet et Mazer et compagnie avaient proposé d'aller mitrailler des maisons nationalistes pour créer des conflits entre militants, etc., etc. Donc, enfin, il n'y a pas trop d'ambiguïté sur ça. Et en tout cas, enfin bon, pour couper toute cette discussion, parce que c'est
oui, on peut faire l'heure là-dessus. Oui.
C'était simplement pour dire que les nationalistes n'ont pas été capables d'assumer ça. Et en fait, ça crée une espèce de fracture un peu historique, parce que tout le jeu du débat entre les autonomistes, les nationalistes et la mainmise petit à petit des autonomistes, c'est de construire une figure d'Ivan Colonna comme l'innocent. Et les autres, du coup, disparaissent, quoi. Parce que quand tu crées une ligne innocentiste, tu reviens à dire que les autres sont coupables. Ben, on condamne les actes, mais pas les auteurs. Puis après, ben, petit à petit, on met Yvan en devant. Et donc, on rentre dans une phase où on va vers une certaine respectabilité en disant que les victimes d'une injustice, ce qui est peut-être vrai, hein, soit dit en passant, mais du coup, les autres sont passés clairement au second rang, quoi.
Oui, c'est un coup d'art, ouais. Vas-y, voilà. Je t'en prie.
Ça a beaucoup pesé à l'intérieur même de leur propre truc. Bon, outre qu'ils se sont, enfin, il y a eu des dénonciations. Eux n'étaient pas dans la possibilité d'assumer le geste politique sur leurs épaules. Enfin, bon, bref, il y a tout ça qui vient de se rajouter. Et donc, ce qui est intéressant pour tout ça par rapport à la période actuelle, c'est que justement, la figure d'Ivan, c'est aussi la figure de ce débat sur l'innocence, quoi. Parce que, on va pas se mentir, hein, pour les jeunes, peut-être que beaucoup le ressentent comme innocent, mais enfin, les supporters de Bastia, enfin, c'est un de leurs slogans, enfin, comment dire, identitaire, voilà, on peut en penser ce qu'on veut, mais de revendiquer l'assassinat du préfet. Et ça, le fait que ça soit posé sur cette question, c'est quand même un révélateur aussi qu'il y a quelque chose qui devait sortir, quoi.
Ouais.
Et voilà, et ça sort, quoi.
Ouais, ouais, mais de toute façon, je crois qu'ils s'en foutent. Pour eux, ils assimilent ça à un symbole. Et c'est clair que quand tu parles, et que tu dis Colonna, c'est la Corse, c'est le mec qui s'est caché pendant 4 ans, qui a été, etc., etc., quoi. Donc, c'est un symbole qui fonctionne. Et les jeunes, ils ont besoin de symboles aussi pour pouvoir avancer. Et ça permet de s'identifier à quelque chose et de refabriquer quelque chose ensemble. Et tu l'as dit, je crois que c'est important aussi parce que ça fait longtemps que sur la durée, il n'y a pas eu ça. L'histoire du mouvement national corse, il s'est aussi créé dans des moments de conflictualité collective. Alors, ce n'est pas seulement la lutte armée, ce n'est pas seulement les bouteilles de gaz pour détruire des trucs, c'est aussi des moments populaires d'affrontement contre la présence de l'État, contre les flics ou contre des symboles. Tu as parlé de cette nuit-là, d'Ajaccio, y a aussi Aléria, etc., etc. C'est des moments aussi qui sont importants dans l'histoire du mouvement national corse, et c'est évident, c'est pas incompréhensible que les jeunes se saisissent de ça pour aussi à la fois reproduire, entre guillemets, mais aussi se fabriquer quelque chose à eux, quoi.
Ah ouais, complet. Et puis il y a vraiment, ça atteint pas que les jeunes, hein. Moi, je raconte toujours que quand on a été dans l'occupation de la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Corse, il y a une dizaine d'années, donc on occupe le bâtiment, moi je me souviens d'avoir vu des gens transformés, quoi. Il y a une espèce de sentiment de liesse, tu vois, mm-hmm. Et puis toujours cette espèce de mythe d'Aléria, quoi, on va enfin se réaffronter, on va enfin arriver à cette espèce. Il y a un côté grand soir, quoi, qui est très fort, et qui est un peu, des fois, il faut faire attention, quoi, parce que ça amène à un côté peut-être un peu niais, peut-être un peu désespéré aussi. Enfin, je sais pas comment dire, quoi.
Oui, il peut y avoir un peu d'ivresse,
ouais. Quoi. Voilà. Ouais, des fois, bon, après, la stratégie, c'est pas toujours bon, hein, mais...
Non, mais voilà. C'est important. Regarde, pour expliquer aux auditeurs, c'est comme la journée des meutes à Paris avec les Gilets jaunes le 8 décembre 2018.
Tout à fait.
C'est des moments collectifs comme ça, ouais. Qui fait que, alors qu'il y avait rien avant, après, ça, c'est plus jamais pareil, quoi. C'est plus jamais pareil. Et cette conflictualité dans l'expression politique, donc ce moment d'émeute, et tout, elle entre là totalement en contradiction avec la stratégie du mouvement nationaliste depuis 20 ans, quoi. Parce que, on va dire... d'ailleurs, est-ce que tu peux expliquer déjà comment ça fonctionne, la Corse, administrativement, et les rapports des forces en présence, et qui dirige, en fait, cette île, quoi.
Oui, on va essayer de pas trop endormir les auditeurs. Mais on va dire
sur la collectivité territoriale, ouais.
Voilà, il y a une collectivité de Corse. Cette collectivité de Corse, petit à petit, se substitue aux attributions qu'il y avait au niveau départemental et puis après au niveau régional. Et effectivement, il y a un petit peu plus de pouvoir, notamment sur l'exécutif, etc. Mais évidemment, il n'y a pas de pouvoir législatif. Et puis après, voilà, il y a toujours le blocage sur des symboles, la non-reconnaissance du peuple corse, la reconnaissance de la langue, etc., etc. Qui participe aussi à la... Ça arrange peut-être un peu l'État aussi, hein, d'être dans un affrontement strictement étatique, strictement institutionnel, et finalement, ça met un peu en sourdine les questions sociales, les questions qui sont liées à la question, aux vraies problématiques, à mon avis, de la Corse, qui sont les problématiques de la division, de la petite propriété, du petit... Enfin, des rapports de toute une société qui n'est pas passée au capitalisme d'après, et en même temps qui se prend de plein fouet le tourisme, avec tout ce que ça implique en termes de détérioration, de conditions de travail, énormément de main-d'œuvre qui arrive de l'extérieur et qui, du coup, peut pas s'organiser sur place. Enfin bon, voilà, il y a beaucoup de problèmes qui sont sautés par ça. Mais c'est vrai que la CDC, voilà, c'est aujourd'hui, sur les dernières élections, très très large majorité nationaliste, ils ont fait 68% toutes tendances confondues. Et puis, bon, moi, pour donner un exemple, voilà, pour que les gens comprennent un peu bien, si vous suivez ce qui s'est passé depuis 10 jours, je vous mets un peu au défi de trouver des réactions d'élus qui soient pas nationalistes sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire que c'est pas seulement les nationalistes qui sont hégémoniques, c'est aussi que même dans les réactions, il y a même plus ils se font même plus chier à condamner, si vous voulez, les radicaux de gauche et tous les spécialistes de la condamnation. Ils appellent même plus, enfin, ils sont vraiment inexistants sur le jeu politique. D'où le fait que, on en a un peu parlé un peu hors antenne, mais, pour moi, le nationalisme aujourd'hui, c'est devenu à peu près la même chose que la République en France, quoi. C'est tout l'arc démocratique de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant évidemment par le centre et les macronistes, voilà, pour associer des gens comme Gilles Simeone ou même Angelini plutôt, enfin voilà, sur ce côté un peu plus affairiste, on va dire Angelini. donc le troisième hein, des nations, le deuxième au niveau des listes. Enfin voilà, c'est trois listes les principales, donc Benedetti un peu pour la version un peu plus fidèle au traditionnel, Simeoni pour le centre et puis le côté un peu plus affairiste Angelini, ils font 68% aux dernières élections hein. Donc c'est hégémonique on va dire le nationalisme aujourd'hui quoi.
Ouais, et c'est ce qu'on disait, il y a eu une espèce d'intégration, donc ça s'est parfaitement moulé dans le cadre institutionnel qui lui avait été créé par Jox. Comme ça, on peut dealer, un coup je te donne deux trucs, j'en reprends un, etc., etc. On est capable de présenter des choses. Mais pour toi, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui être nationaliste en 2022 en Corse, quoi ? C'est ça aussi la difficulté. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, quoi ?
Ben, je me suis toujours pensé un peu sur l'évolution de ces 10 dernières années ou 15 années, un peu l'abandon de la lutte armée, avec tout évidemment les, on va dire que matériellement c'était plus possible hein, la lutte armée, je veux dire les groupes tombent très vite, il y a une répression a posteriori. Je pense que les gens qui ont suivi le mouvement des Gilets jaunes comprennent très bien ce que je veux dire hein. Les arrestations elles se font pas en manif, elles se font après, enfin il y en a aussi en manif hein, mais il y a beaucoup d'arrestations après. Il y a beaucoup d'enquêtes qui sont menées a posteriori. Enfin, il y a tout un arsenal judiciaire qui fait que... Mais en tout cas, c'est sûr que cette perspective, on va dire, de rapport de force, elle s'est amenuisée. Et oui, je dirais, c'est un peu la fable du lion amoureux, quoi. T'as l'impression vraiment que les rapports de force, on a participé à les dissoudre, notamment avec une prédominance des intérêts du petit patronat en Corse. Pour moi, il y a deux figures. C'était le front, donc la dissolution du front, qui était quand même un rapport de force, quoi qu'on en dise, donc avec l'État. Et la deuxième chose, c'est la SNCM, puisque on avait quand même si je suis pas un grand fan de la CGT, mais il y avait un rapport de force réel des marins sur ne serait-ce que sur des négociations économiques. La dernière grève importante qui a impacté l'île, c'est quand même une grève des marins en 2006, qui, je le rappelle, était en solidarité avec les porteurs de journaux. Donc ça voulait dire que tu pouvais quand même embrayer sur un rapport de force dans le monde du travail. Bon, ben ça, c'est plus ou moins au point mort, notamment avec la privatisation, et puis les syndicats sont disséminés, la paix sociale est aussi gentiment achetée par le patronat corse qui s'est bien installé, notamment avec la mise en place d'un consortium qui a repris la SNCM. Donc c'est vrai que tout ça, ça a beaucoup pesé, et qu'aujourd'hui, ben, c'est difficile de dire c'est quoi être nationaliste, parce que au niveau de la langue, c'est quand même un peu illusoire de limiter l'appartenance à quelque chose à une langue. Mais en tout cas, il n'y a pas de grandes évolutions en faveur de ça, quoi. Hein. La langue corse elle est extrêmement marginalisée. Et puis ça reste quand même une des principales problématiques, on va dire. Après, je sais pas que te dire. Être nationaliste aujourd'hui, pour moi, c'est tous les Corses sont nationalistes d'une façon ou d'une autre, quoi. Et c'est peut-être ça aussi qui aujourd'hui risque peut-être d'attiser encore des tensions, parce qu'il y a toute une partie des gens qui débarquent, parce qu'il y a beaucoup d'arrivants en Corse, hein, beaucoup d'arrivants du continent, et à un moment, ça va pas tenir, quoi, tu vois. Il suffit de regarder les noms de famille de l'Assemblée de Corse, c'est que des noms corses, quoi. Je veux dire. Il n'y a pas un nom ni algérien, algérien pas beaucoup, mais marocain ou tunisien, et français, il y en a quelques-uns, mais bon, voilà, quoi. Il y a un truc vraiment qui va te poser à un moment là-dessus. Mais enfin bon, ça c'est une autre question, mais aussi importante, je pense.
Voilà, il y a eu quelques réactions quand même au cours de cette lente intégration, on va dire institutionnelle. Hein. Il y a eu un petit peu autour du PADUC, hein, le plan d'aménagement d'urbanisme, qui a été un petit moment où il a commencé à poser des questions. Pour faire vite, il y a un gros problème avec le foncier en Corse. Hein. Évidemment, il y a un bel espace, mais il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui viennent et qui achètent et qui construisent avec leur pognon, en général des bourgeois, hein, bien évidemment. Ce qui avait été mis en avant, c'était l'occupation de la villa de Christian Clavier, hein, pour ceux qui se rappellent, hein, justement, qui n'avait pas de permis de construire, mais qui avait quand même réussi. Donc voilà, c'est un peu ça, hein, la Corse, si on veut un petit vraiment résumer, c'est aussi des gens qui s'en font un terrain de jeu et qui vont pendant 3 mois aller bronzer là-haut parce que c'est joli, puis après qu'ils se cassent, quoi. Et pendant ce temps-là, les autres, ils ramassent, quoi. Qu'est-ce qu'on peut
dire un petit peu comme données économiques sur la Corse, combien de chômage, notamment chez la jeunesse, combien de gens qui partent, est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Là, tu vas vraiment me prendre, je suis pas très doué en termes universitaires pour te répondre à tout ça. Ce que je peux te dire très généralement, c'est que la moyenne du chômage est toujours plus importante que celle du continent. Moi, depuis que je suis né, le salaire a toujours été nettement plus bas que sur le continent. Beaucoup de gens vivent évidemment avec des prix plus hauts. Alors on réfléchit deux secondes et on se dit mais qu'est-ce qu'ils font, ils mangent des pierres? Ben, c'est pas exactement ça, mais ils vivent de la pierre par contre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens il y a de plus en plus de résidences secondaires, je précise.
Bien sûr.
Et il faudrait, c'est un peu désordonné tout ça, je pourrais donner l'exemple de Loum, qui est un village où il y a je crois qu'au dernier chiffre c'est 72% de résidences secondaires sur le village. Il y a vraiment une minéralisation de la Corse qui se fait par le foncier, quoi. Tu vois vraiment que il y a une Corse à deux vitesses et une Corse à deux vitesses en plus qui se prend d'un autre côté de plein fouet les problématiques de la dégradation des conditions de travail, mais surtout de le recours à l'auto-entreprise, les CDD, les CDSA et tout, etc. Ça fait que la pause que les gens ils se faisaient au niveau saisonal est de moins en moins claire, quoi. Les saisons sont de plus en plus bordéliques. Ça démarre des fois en mars, cette année ça a terminé en novembre. On sent que les gens ils s'en sortent sur les rotules de la saison touristique. Mais plus généralement, on va dire que le principal problème aujourd'hui de la société corse, c'est surtout que l'occupation du territoire est devenue quelque chose de... Mais comme ailleurs dans le monde, mais dans les coins méditerranéens, c'est de manière encore plus évidente. Tout est littoralisé, il y a une sous-occupation des villages. La moyenne je crois qu'il y a un village sur deux qui a moins de 100 habitants, enfin c'est la Lozère avec la plage, quoi. Donc et je pense que les gens de Lozère ils comprendront qu'effectivement c'est difficile d'envisager une économie pour un pays avec tout ce discours nationaliste, il faut construire ci, il faut construire ça et tout, etc., dans un contexte autant dégradé, quoi. Et après t'as deux villes avec Bastille et Ayatch, où aujourd'hui, pour ceux qui sont pas allés à Ayatch depuis 10 ans, ils pourraient très bien être hallucinés par l'évolution de la ville, quoi. La ville est en train de s'arc-bouter sur deux grands hypermarchés, tenus par Roca et Padrón, qui sont donc les deux grands patrons qui sont aussi, qui ont servi de prête-nom pendant très longtemps pour les grandes entreprises, casinos, Auchan et tout, etc. Et bon, ça a été une espèce d'énorme raout. La ville est en soi déplacée autour de cet endroit-là. Évidemment, avec la création de quartiers résidentiels, que les gens qui connaissent un peu la région de Cagnes-sur-Mer ou les trucs comme ça imaginent très bien, en gros, des retraités et des agents de sécurité. C'est pas une société qui fait rêver aujourd'hui. Par contre, il y a l'arrivée assez massive, on va dire, de beaucoup de travailleurs, enfin de prolos du continent, qui viennent bosser notamment dans tout ça, quoi, dans la grande distribution, les magasins, les ci et ça. Et il y a effectivement quelque chose qui va se jouer sur ça, je pense, en termes social, sinon ça va éclater à un moment, quoi.
Ben justement, c'est ce que j'allais te dire. Il fut un temps, alors on va pouvoir peut-être distinguer deux vecteurs, c'est-à-dire que il y avait effectivement des nationalistes qui étaient sur la construction d'un projet d'État-nation, mais il y a toujours eu, dans le mouvement national corse, des nationalistes qui étaient aussi sur un projet de rupture, c'est-à-dire que si on se détache de la France, c'est pas pour construire une mini-France, c'est pour construire autre chose. Si en mettant en avant cette question sociale, il n'y aurait pas la possibilité justement de reformuler un projet?
Non, mais c'est toujours pas, c'est vrai. Il faut en retirer pas mal de trucs de toute une mythologie. Ce que j'ai essayé de dire, c'est par exemple sur la ruralité, tu vois. Les gens me disent est-ce que les villages vont bouger? Ben, les villages, moi, mon village, il y a 80 habitants l'année. Et trois quarts de retraités. Alors ça bouge, mais ça bouge dans la mesure de ce qui est possible, quoi. Oui, il peut y avoir effectivement des choses qui vont jouer avec des gens qui vont juste réagir à la situation économique. Par exemple, tu pourrais penser que le mouvement des Gilets jaunes aurait dû avoir un énorme impact.
Normalement, j'allais te demander.
L'essence est un problème quand même assez central, tu vois. Et non, il n'y a vraiment pas eu l'émergence d'une espèce d'autonomie et on va dire que assez nettement sur ça, la question nationale, elle bloque quand même assez salement la question sociale, sur notamment sur le fait qu'en fait tous les agendas qui sont peuvent être mis en place par les travailleurs sur le continent ne seront pas suivis en Corse, quoi. Voilà, les manifs syndicales sont désertées, il y a que des délégués syndicaux. Bon, tu me diras, il y a pas mal de villes qui font ça aussi en France.
Je dirais finalement, c'est peut-être, il y a peut-être une continuité, quoi.
Voilà, mais voilà. Et dans les gilets jaunes, ça a été un mouvement existant, mais quand même très vite, voilà. Mais voilà, là encore, on voit qu'on va vers une disparition, en tout cas, de l'État comme intermédiaire principal. Parce que qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils sont allés à la collectivité de Corse, et il y a eu une petite remise qui a été faite sur les produits de première nécessité par la collectivité de Corse. Enfin voilà, tous les gestes un peu sociaux ont été faits de ce côté-là, quoi.
Ouais, pardon. Il y a Denis qui voulait poser une question.
Oui, avant de venir à cette émission, ouais, j'ai relu un article de Corse Matin de 2015. Ouais. C'était une interview d'Alexandrie et de Ferrandi sur leur situation et sur ce qu'ils avaient vécu. Et j'ai été étonné par le contenu politique très intéressant de cette interview, d'autant plus qu'ils disaient, finalement, ils sont contents, ils ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir, les indépendantistes et les autonomistes. Ils ont le pouvoir, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait rien. Donc voilà, je pense que c'était, pour ceux que ça intéresserait, il suffit d'aller sur le site auclibertaire.l'autre.net, de revenir en arrière, il y a 500 pages, je crois, mais ça va vite, hein, par 40, on y arrive facilement, et de retomber sur cette interview de Corse Matin, assez intéressant.
Mais tout d'abord, vraiment, ouais, pour le coup, c'est très bien de le faire remarquer, parce que c'est vrai que moi aussi, ça m'avait frappé, pourtant, enfin, on est un peu, mais voilà, et justement, j'insiste aussi, hein, sur, j'y repense maintenant, sur le fait que cette région-là, donc de Petro, Alessandre, Livan, Colonna, etc., Cardiese, ça a été aussi le théâtre, il y a 2 ans, de l'assassinat d'un militant, Massimo Susini, qui a donné d'ailleurs, qui a eu pour conséquence la création de toute une série de collectifs anti-mafia. Et justement, on parlait de qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste aujourd'hui et de ses limites. Ben, le côté, justement, on est au pouvoir, mais à quoi ça sert, est un truc qui ressort systématiquement depuis quelques mois, hein. Et déjà, par rapport à l'assassinat de Massimo, qui était une évidence, parce que quelque part, je rappelle un peu ce truc que dit, je crois que c'est Pantaleon Alessandre, ou je sais pas, enfin, un militant important de l'histoire du mouvement, qui dit, lorsqu'ils sont allés venger la mort donc du militant nationaliste Gerson, qui avait été tué par des barbouzes en 83, y a des militants qui sont rentrés dans la prison, qui sont déguisés en flics, qui sont rentrés, qui ont tué donc les assassins barbouzards, voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a vraiment eu une espèce de rapport de force de dire on ne touche pas à nos militants, quoi. Bon. Et c'est vrai que l'assassinat de Massimo, quelque part, c'est la fin de ça, quoi. C'était une façon de dire que ce militant, au demeurant d'ailleurs très très gauchiste, on va dire, bon, peut-être plus, marxiste-léniniste ou quelque chose comme ça, mais enfin, très très à gauche, qui était vu un peu comme une figure pour les jeunes, eh bien, on avait le droit, entre guillemets, de l'assassiner comme ça, le matin, pour des histoires de racket qui s'étaient passées dans la région de Cardiese. Et il y a une assemblée après ça, et c'était assez... Toujours, c'est ce que je disais un petit peu plus tôt, il y a vraiment un sentiment que le mouvement arrive face à ses limites, le nationalisme arrive face à ses limites, on les voit, mais ça casse pas, quoi. Il y a une grande assemblée, il y avait 600-700 personnes, il y avait une centaine d'élus nationalistes qui ont pris la parole, qui ont fait une espèce de raout, de je sais pas quoi, de démocratie, je sais pas quoi, enfin bon, hein. Et là, il y a eu des dizaines d'interventions pour leur voler dans les plumes et dire, mais à quoi vous servez, quoi? On peut tuer un militant comme ça, qu'est-ce que vous pouvez faire contre les mafieux, etc. Et voilà, et malgré ça, ça avait débouché sur rien que, ben, que des jérémiades, que des gens qui s'énervent et puis qui rentrent chez eux, et puis pas de souffle derrière, à part un collectif anti-mafia qui, à mon avis, est très facilement intégrable, quoi, j'allais dire, ça va pas très loin, quoi. Et voilà, et là encore, et ben pour te revenir à ce que tu me demandais plus tôt, Jean-Michel, il y avait un truc, il y a une assemblée qui s'est menée donc juste après l'assassinat d'Ivan, Et là, c'est pareil, tu te retrouves avec 300 personnes, c'est la fac, c'est les étudiants qui appellent, et à ce rassemblement des étudiants, tu vas avoir Gilles Simeoni qui intervient, Poffé Benedetti qui intervient, les CSA, tous les élus possibles et imaginables qui interviennent les uns après les autres. Et les nations sont même allées encore plus loin parce qu'ils ont créé une assemblée des jeunes, donc ils ont créé leur propre, j'allais dire, leur propre créature, quoi, en version jeune, qui eux-mêmes prennent la parole au nom de la jeunesse. Donc c'est sûr que là-dedans, c'est difficile de respirer, quoi.
Ben, c'est ce que j'allais dire, ça fait beaucoup entre l'émotion, entre la colère, entre l'héritage des générations passées à se prendre sur les épaules, entre les leçons de morale, etc., etc., pour pouvoir commencer à discuter et former ne serait-ce qu'un projet politique, on parle même pas de projet politique de rupture, ça commence à faire lourd, ouais. Mais peut-être que justement, c'est aussi dans des moments comme ça, où on partage du commun, où on arrive à créer une communauté qui soit une communauté de lutte, où on se définit par rapport à l'autre en tant que quelque chose, mais quelque chose contre, dans la conflictualité, qu'on peut commencer à poser quelques jalons. Et justement, aller sur la critique du nationalisme, d'une part, de son nationalisme institutionnel, pas forcément cartonner tout le monde, hein, c'est pas ça ce que je veux dire, mais essayer de réfléchir à aujourd'hui, tiens, qu'est-ce que ça pourrait être vivre ensemble sur une île, dans un capitalisme déchaîné, mondialisé, intégré au niveau européen avec toutes les régions, etc., etc., un peu en s'inspirant de l'ensemble des projets et des limites qu'il y a eu dans d'autres parties du monde. Quoi, où il y a eu des luttes de libération nationale, que ce soit la Catalogne, le Pays Basque, l'Irlande, etc., etc.
Bah carrément. On a parlé un peu des limites, quoi. On peut continuer, hein, parce que même la manif en tant que telle, je pense que les gens qui ont suivi les Gilets jaunes, ils doivent halluciner, hein, de voir. On en parlait là, le résultat de la manif d'hier, c'est quand même clair que l'État a décidé de ne pas intervenir, quoi. Oui. Et a obligé les flics à ne... Ils réagissent, hein. Enfin, ne vous inquiétez pas, GLI et tout ça, etc., on y a droit, hein. Mais ils sont rentrés chez eux, ils sont à court de munitions. Ceux qui connaissent un peu la sixième puissance mondiale savent que s'ils avaient vraiment envie d'amener des munitions, ils en amenaient, quoi.
Bah, oui.
Donc, il y a vraiment un truc, entre guillemets, d'apaisement, qui d'ailleurs, pour ceux qui veulent aller tweeter un peu, aller regarder un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux au niveau des syndicats de la police et tout, ça les a fait réagir, hein, parce que eux, ils sont pas dupes du fait qu'ils ont des ordres d'en haut sur le fait que... Et donc, pour aller très vite, que ça soit là ou sur la manif, je rappelle qu'en 2008-2009, il y avait un gamin de 14 ans qui s'était pris un flashball dans la tête, qui était tombé dans le coma, et du coup, il y avait une manif où là, les flics avaient pris très très cher. Bon, mais il y avait 80 blessés annoncés de la police et une arrestation qui était un malheureux SDF qui passait par là, qui avait rien à voir avec la choucroute. Et là, aujourd'hui, il y a eu des arrestations, mais bon, il y a 67 blessés, il y a un flic qui a reçu une balle dans l'entrejambe, il y en a un autre qui l'a reçu, qui a reçu une sur son téléphone. Enfin bon, c'est pas des balles, c'est du plomb, mais bon, enfin bon, c'est quand même ça veut dire quand même qu'il y a une certaine il y a une retenue qui est imposée. Donc, il y a un côté un peu spectaculaire aussi dans la manif. Et c'est clair que là aussi, c'est une limite. Maintenant, les aspects positifs et le côté un peu... on va pas quand même chercher que des choses catastrophistes. Il y a quand même, en ce moment, l'enjeu de ces jours à venir, c'est la grève. Donc, ça se pose par en haut, une fois de plus. Donc, c'est toujours pas... des groupes de base, des unités qui arrivent à se bouger, vous voyez ce que je veux dire. Il y a que chez les marins qu'ils ont pris vraiment le truc, ils ont pris le taureau par les cornes, et quand ils ont appris qu'il y avait à avoir cette manifestation, ils ont fait un appel à aller bloquer les bateaux, et il y a vraiment eu un truc pour empêcher les munitions d'arriver, etc., etc., et les renforts, bon, ça c'était bien. Mais c'est vrai que, bon voilà, pour l'instant c'est pas énorme, mais il y a un appel à la grève mercredi et jeudi. C'est encore... toujours entouré par le paternalisme nationaliste. Il faut prendre ceux qui connaissent un peu l'université de Corté, vous avez regardé le communiqué qu'ils ont fait, c'est très clair. Ils font des appels à fermer la fac, mais pour ceux qui connaissent un peu les mouvements étudiants, mais par contre, ils continuent les cours par Internet. Donc les gens sont priés de continuer à aller en cours, à suivre les cours. Il y a un suivi pédagogique, ils ont dit.
Bah oui.
Et bah oui, bien sûr, ça serait trop simple. Et ils font des appels systématiques à ce truc qu'ils appellent Isula Morta. Et Isula Morta, c'est bien l'idée de l'île morte, tout est fermé. Mais qui c'est qui impose que l'île est morte? C'est le haut ou c'est le bas? Et qui c'est qui va le respecter? Est-ce que les gens dans les supermarchés qui travaillent aujourd'hui, ils vont arrêter le travail ou est-ce que leur patron, il va leur dire oui, bon, Isula Morta, Isula Morta.
C'est bien beau, voilà, mais tu viens quand même, ouais.
Voilà, et nous, le principal dans la grève, c'est quand même l'espace d'organisation, l'endroit où les travailleurs se rencontrent et créent un rapport de force. Et c'est vrai que ça, pour l'instant, voilà, on va voir ce que ça donne dans les jours à venir. Mercredi, jeudi, ça va être des journées un peu importantes.
Alors oui, et puis on dira aussi que quand même, la lutte, ça paye, parce que en quelques jours, le statut de détenu particulièrement signalé a été abandonné, a été retiré à Ferrandi, à Alessandrie. On passe sur le fait qu'il a été retiré à Colonna, c'est insultant, quoi. Ouais. C'est vraiment... Mais voilà, ça veut dire que en une semaine de lutte, avec de la confrontation, on obtient plus qu'en 10 ans, en demandant gentiment, quoi. Alors après, on ne sait pas si ils vont pouvoir revenir sur l'île. C'est la deuxième étape, quoi. On se doute bien que doit y avoir des trucs dont on ignore encore les choses et qu'on saura que très tardivement. Il y a eu un petit article dans le Canard Enchaîné en disant bon. Est-ce qu'on peut pas dealer des trucs? Mais bon, voilà, il y a des moments comme ça, il y a des événements qui se transforment peut-être aussi en mouvement. Il faut voir. On va être obligé de conclure, Jean Page. Ouais. Désolé, c'est trop court. On aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus.
Il se passe des trucs dans le monde, hein, en ce moment.
Non, mais la conclusion t'appartient parce que il se passe des trucs dans le monde. Ouais, tu m'étonnes. La conclusion t'appartient, ouais, en tant que Corse, en tant que communiste, en tant que révolutionnaire, comment tu fais pour retrouver tes petits, toi, là-dedans?
Bah, je retrouve son paternaliste que ça, mais non, moi, ce que je pense surtout, c'est que il y a pas mal de jeunes qui sont allés là dans les affrontements avec les flics. C'est très bien, puis il n'y a pas d'âge pour commencer, quoi. Je pense qu'on a une tâche, nous, politique, je veux dire de transmission, j'ai l'impression d'être un vieux con.
Mais déjà, oui.
Il y a d'expérience et d'échecs surtout. Nous tout ce qu'on peut transmettre, c'est des échecs. Hein. De toute façon, si on avait gagné, on le saurait. Et ça va être important, je pense. Et ça va jouer beaucoup, parce que là encore, comme le nationalisme il reproduit la sphère politique, de la gauche, de la droite et tout, etc. Eh ben c'est le grand supermarché, quoi, et beaucoup de jeunes vont se politiser aussi maintenant à travers parce qu'ils vont essayer de voir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde. Donc c'est important de mettre de la solidarité, de mettre du soutien politique aussi de l'extérieur, aussi de réfléchir à quels sont les problèmes de la Corse, parce qu'il n'y a pas que les Corses en fait qui vont régler ça. Et justement, la solidarité internationale, la conscience de classe, ça passe aussi par ces choses-là. Donc je pense que c'est important de leur apporter du soutien d'une façon ou d'une autre. Et c'est ça que j'avais à dire.
En fait. En tous les cas, en tant que anarchiste communiste et en tant que révolutionnaire, non pas de s'approprier ces thématiques, mais de les sortir justement de ces espèces de débats qui sont confinés et de les poser en tant que question sociale et politique, quoi.
Et sans opportunisme. Vouloir à tout prix leur dire tout ce que vous faites c'est bien, vous avez raison et tout, etc.
Non, ou tout ce que vous faites c'est de la merde, non, pas du tout.
Voilà ce que nous, on peut apporter, ou ce que vous pouvez apporter extérieurement à un mouvement qui a l'air d'être un mouvement apparemment identitaire, alors qu'il ressemble tellement à tellement de choses qu'on a vues, que ça soit les gilets jaunes, que ça soit les manifs, je pense au Pays Basque. Ce qui est en train de se passer, ça rapproche quand même pas mal des Caliboro, choses comme ça, quoi. Hein. Ouais. Une évolution. Hein.
Ok, ben merci beaucoup Jean Pas. Ne quitte pas, je vais te reprendre et il vous reste 6 minutes pour faire une analyse des ventes d'armes.
On parlait de la guerre dans le monde. Voilà. D'accord, 50 minutes.
On va peut-être faire une pause musicale, hein, avant de. Oui, il nous reste quelques instants pour vous reparler de ce qui se passe en Ukraine. Je pensais que c'était intéressant tout de même de vous dire ce que qu'a publié Dislov, excusez-moi, qui est repris d'ailleurs déjà par Le Monde tout à l'heure, sur les ventes d'armes de la France depuis 2015, avant aussi, hein, mais ça s'est poursuivi jusqu'en 2020. C'est quand même un axe d'intervention pour nous, de dénonciation justement des ventes d'armes françaises, où effectivement les Ukrainiens peuvent avoir des armes françaises, mais aussi les Russes, au niveau de leur précision de tir. C'est ça qui est important. Il y a aussi un autre thème qu'il faudra aborder, mais on aura certainement l'occasion d'y revenir, c'est le thème de l'accueil. Les réfugiés ukrainiens ont la chance d'être blancs et d'être chrétiens. C'est clair. Sans ça, ça aurait été beaucoup plus difficile de trouver des endroits pour être accueillis. Là, ça se passe bien, c'est très bien pour eux. Je ne critique pas le fait que ça se fasse. Mais d'un autre côté, il faudrait quand même réfléchir et puis dénoncer un peu ce que a dit. D'ailleurs, les autorités grecques ont été jusqu'à dire qu'effectivement, on accueille les Ukrainiens parce qu'ils sont blancs et parce qu'ils sont chrétiens. Carrément, c'est pas des Syriens, c'est pas des Afghans. Hein. Bon voilà, alors bien sûr, c'est quand même ça interroge quand même cette histoire d'accueil. Tu as peut-être des choses à dire là-dessus ?
Moi, je crois que la vulgarité de la bourgeoisie au pouvoir et son cynisme semblent désormais sans limite, quoi. Alors évidemment, quand on vend des armes à l'un et qu'on prête des missiles Milan à l'autre, faut qu'on soit capable de présenter quelque chose. On parle de quoi ? De 20 000 plus 10 000, c'est ça ? De 30 000 places d'hébergement qui auraient été ouvertes, en partie chez des particuliers, 10 000, et ensuite dans différentes zones étatiques.
Oui, parce qu'il y a... Ce qui est quand même étonnant, il n'y a pas qu'en France, hein, dans tous les pays, on peut dire, il y a un accueil particulier par rapport à ces Ukrainiens sur lequel faudrait s'appuyer pour que justement puissent en bénéficier tous ceux qui ont des problèmes pour de guerre chez eux, quoi. Ce qui s'est passé au niveau de la Syrie, par exemple, en Afghanistan récemment. On n'a jamais parlé d'accueil de ce type-là. Il y a des trucs d'hypocrisie et de saloperie incroyables. La maire de Calais, qui va accueillir des Ukrainiens alors qu'elle fait la chasse dans sa ville à ceux qui quittent leur pays, en particulier des Kurdes.
Il y a aucune limite et effectivement de toute façon après avoir défoncé ce qui reste et avoir été incapable d'empêcher la guerre, comme d'habitude, on soigne les conséquences mais on s'attaque jamais aux causes, quoi.
Oui, et puis on fait du commerce. Ouais. Allez, on se quitte.
Ce qui vous attend, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, c'est ça, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur l'écho des Garrigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.